du mercredi 5 au samedi 8 février 2003, sur les traces des ancêtres. La sortie de Cotonou est longue. La capitale économique du Bénin s'étend de plus en plus. La conduite des tandems y relève du rallye. Il faut slalomer entre les travaux, les voitures, les camions et surtout les émigrants. Ces taxis mobilettes sont conduits par des chauffeurs reconnaissables à leur tunique jaune. Très pratiques, ils permettent de se déplacer rapidement d'un point à l'autre de la ville, non sans risque. Les pilotes de ces engins ont une très mauvaise réputation et il paraît que les accidents sont fréquents. La course est accessible à tous à partir de 100 francs CFA. 1 franc français, 15 centimes d'euros. Beaucoup d'aveugles se déplacent grâce à ce moyen de transport économique et pratique. Face à ces petites motos, le pilotage des tandems est difficile. Nous n'avons pas la même reprise, pas la même capacité d'accélération et notre châssis n'est pas aussi maniable. Un coup de guidon à droite, un coup brusque à gauche pour esquiver le rétro du Zémi qui nous double, coup de frein car la voiture devant vient de caler, redémarrage. Après tout, c'est pareil pour tous. Chaque conducteur ne fait que tourner un volant et appuyer sur des pédales. À la nuance près que notre moteur est composé de deux paires de muscles. La sortie de Cotonou nous permet de respirer un peu plus. Un masque de pollution couvre l'ensemble de la ville. Je n'avais jamais vu ça. Il me suffit de m'éponger le front avec la manche de mon t-shirt, propre de ce matin, pour y laisser une tache gris-noir, mélange de sueur et de pollution. La première journée de tandem se déroule sans encombre pour Franck et Lookman. Ce sont des sportifs aguerris et entraînés, et dans le rythme qu'ils donnent, je peux sentir leur volonté d'aller de l'avant. Notre première halte est symbolique, la porte du non-retour. Un monument a été dressé sur la plage. Je lis à Franck et Lookman le texte qui y est inscrit. La porte du non-retour. Elle symbolise l'étape ultime de la plus grande déportation qu'ait jamais connue l'humanité, la traite négrière. Les esclaves, en arrivant sur cette plage de Djegbadji, foulaient pour la dernière fois le sol de l'Afrique et s'en allaient sans espoir de retour vers un destin horrible et funeste. C'est ce que symbolise la partie du monument tournée vers la ville de Ouida. En revanche, côté mer, la porte symbolise, malgré les souffrances et les douleurs subies, le retour du souffle des ancêtres revenus de l'au-delà des mers, ainsi que les liens indissolubles qui rattachent la diaspora nègre à la terre africaine. Le bourreau avait tué une fois en instituant l'Holocauste des esclaves noirs. En construisant, au nom de la tolérance, de l'écoute mutuelle et de la coexistence pacifique des peuples, ce monument, la République du Bénin et l'UNESCO ont voulu instituer la mémoire afin d'empêcher l'amnésie historique de s'installer et le silence de tuer une seconde fois. Les dizaines de millions d'esclaves ont, par leur sang et leur sueur, enrichi les initiateurs et les destinataires du commerce triangulaire du bois d'ébène. Le bruit des vagues a remplacé le son de ma voix. Je ne sais plus quoi dire. Mes ancêtres ont massacré, asservi les ancêtres des deux amis qui sont à mes côtés. Qui sait si je n'y aurais pas participé, si j'étais né il y a quelques centaines d'années? Un frisson me traverse l'échine. La mondialisation, la globalisation avait commencé il y a bien longtemps. Le commerce international, la recherche de richesses, les délocalisations, le profit, sont des notions qui ont un passé lourd. En tant que futurs diplômés d'école de commerce, nous en représentons le futur. Franck et Lookman sont en face de moi. Je leur fais part de ma révolte. Lookman me répond sur un ton lucide. La responsabilité nous en incombe également. Ceux qui nous livraient aux Blancs, en échange de canons, étaient nos propres frères, ceux-là même qui ont enchaîné, maltraité et violé mes ancêtres. Il rajoute. Avant l'arrivée des Blancs, l'Afrique était dirigée par des tribus guerrières qui cherchaient sans cesse à agrandir leur territoire en s'attaquant les unes les autres. Vous, les Blancs, avaient échangé avec ces tribus des canons et des fusils contre des esclaves. Les armées coloniales sont arrivées dans un second temps, les tribus africaines déjà affaiblies. J'en suis renversé. L'homme peut vraiment se donner les moyens d'être son pire ennemi. Franck prend à son tour la parole. Sur cette plage, les hommes et femmes faisaient respectivement 9 fois et 7 fois le tour de l'arbre de l'oubli afin d'oublier leur terre. Ils faisaient ensuite 3 fois le tour de l'arbre du retour. Ces 3 derniers tours devaient permettre à leur esprit de revenir sur leur terre d'origine à leur mort. Je regarde l'horizon qui s'étend face à moi. Je décris les mouvements des vagues à Frank et Lukman. Ce dernier n'a jamais été dans l'océan. Il a peur. Jean-Christophe le prend par la main et l'accompagne pour une promenade, les pieds dans l'eau. Il se prend au jeu. Pour la première fois, il touche, sent le mouvement de l'eau. Il ressort, mi-amusé, mi-apeuré. Franck, c'est vraiment bizarre. L'eau avance, recule sans arrêt. Remis en selle, nous subissons un relief en montagne russe. Nous suivons des courbes sinusoïdales rapprochées. Je me sens de plus en plus faible. Depuis quelques jours, mes crises de diarrhée sont de plus en plus fréquentes. Dès que j'avale quelque chose, je me précipite aux toilettes. Il m'arrive de devoir arrêter le tandem en urgence sur un bord de route pour courir me soulager près d'un champ. Mon estomac se tord de douleur. Je me crispe, le temps que la crise passe. Ce genre de scène m'arrive plus de 10 fois par jour et presque autant durant la nuit. J'ai de plus en plus de mal à manger. La nourriture dans les villages est pourtant excellente. Viande de brousse, igname, soja, manioc, pommes d'acajou. Tout cela me fait envie, mais mon estomac refuse de l'ingurgiter. Je compense en buvant beaucoup. Quand je peux, je me fais des infusions à base d'herbes que je sucre autant que possible pour puiser de l'énergie. Mes 3 amis, eux, en profitent. Franck me dit « La vie à Cotonou est bien plus compliquée. Si tu as faim, il te faut de l'argent pour manger. Dans les villages, c'est plus facile. Il suffit de cultiver la terre et d'aller chasser. Tu trouves la nourriture près de chez toi. Et elle est bien meilleure. Je suis heureux de pouvoir en profiter pendant ce voyage. » Au rythme des « Bonjour Yovo, ça va Yovo ?» nous arrivons à avancer. Nous passons du goudron à la latérite. Le relief ne change pas. Le passage a creusé la piste, créant un sol ondulé. Nous devons redoubler d'efforts. Nous faisons des pauses régulièrement. Lukman est le seul à s'en plaindre. Quand je repars, mes muscles ont du mal à se réveiller. L'ensemble de mon corps tarde à se remettre en mouvement. Il est de loin le plus en forme de nous 4. Mes pauses vidanges s'imposent de plus en plus fréquemment. Chaque jour, je me sens plus diminué physiquement. Arrêté dans un village, un homme vient nous voir et entame la conversation. Prenant Jean-Christophe et moi à partie, il s'exclame. Les Blancs sont intelligents. Chaque fois qu'ils viennent, ils se débrouillent pour nous mystifier avec de nouvelles machines. Il a envie de rigoler. La conversation se poursuit. Nous sommes 5 hommes, pas de femmes à l'horizon. La polygamie est abordée, notre ami s'emballe. J'ai 4 femmes, elles n'en demandent jamais plus. Je les baisse correctement, je suis puissant. Une femme ne peut m'effrayer. Ma première femme m'a fait 6 enfants et on a stoppé. On baisse bien, mais bon, on prend les dispositions pour ne pas grossir. Ma 2e femme m'a fait 4 enfants, la 3e 3. Bon, la 4e, ça fait pas longtemps, mais elle attend un enfant. J'ai 53 ans et je suis en pleine forme. Un autre villageois, qui écoutait jusque-là, intervient. Tu es un chaud, toi. C'est un don, je continue de produire. Lukman s'y met. C'est un brave homme, il est puissant. Moi, je veux même avoir jusqu'à 7 femmes. C'est mon tour d'interroger. Il n'y a pas de rivalité entre tes femmes? Non. La rivalité dépend du mari. Il faut un apprentissage. Les femmes, il faut savoir faire. Les vieux polygames sont ceux qui donnent les meilleurs conseils pour préserver la paix dans la maison. Laisse-moi te dire. Quand le premier enfant a 3 ans et le 2e 1 an, il faut chercher une autre femme. Mais il faut, d'abord, demander l'accord à sa première femme avant d'aller chercher des co-épouses. Elle a le droit de refuser. Est-ce qu'on peut avoir 4 femmes en France? Non, c'est interdit. Pourtant, j'ai entendu à la radio qu'il y avait un homme avec 2 femmes. La 2e était peut-être une amante. Ça veut dire qu'il a 2 femmes, non? Oui, mais l'une n'est pas sa femme officielle. Tu sais, ici au Bénin, on a le même problème à la ville. Ce que les gens voient dans les films, les vidéos et tout ça, n'est pas réel. Mais après, Il cherche à pratiquer pareil. Ici, au village, la vie est simple. Il n'y a pas d'électricité. Nous travaillons au champ et nous revenons à la maison manger. Le travail est dur. Les enfants nous aident. De même, le travail de la maison est trop dur pour une femme seule. C'est pour ça que souvent, c'est elle-même qui demande à son mari d'en épouser une autre, afin de partager les tâches. Franck ne dit rien depuis le début. Les villageois se tournent vers lui. « Et toi, tu n'aimes pas la polygamie ?»«
Jamais.
Dieu ne permet pas d'avoir plusieurs femmes. » Pour ce protestant, la religion a une grande importance. Chacun se prenait au jeu, exagérant un peu ses propos pour faire rire les autres. Franck prend le sujet très à cœur. Nous décidons de ne pas insister, chacun son avis, sa position. En reprenant la route, les propos échangés me font réfléchir. Je pense au standard familial qui se propage en France. Couple avec deux enfants et un chien. Entre les deux, une réalité très différente. Ici, chaque famille est une petite entreprise indépendante. Un couple et deux enfants auront du mal à faire prospérer un champ. Pas de plat pré-cuisiné à réchauffer au micro-ondes. Il faut se lever tôt pour commencer à préparer le repas de midi. Il y a besoin de main-d'œuvre, tant au champ que pour entretenir la maison. Une question me taraude. Où est la place de l'amour dans cette société? Est-ce un luxe pour ceux qui ont déjà tout le reste? Loukman rigole de mes interrogations. Tu te poses trop de questions. Cyrano se met à gémir. Les freins crissent. Les montures s'arrêtent. Docteur Jean-Christophe descend et ausculte son patient. Loukman, inquiet, est toujours assis sur sa selle. Notre guérisseur se relève vite. Le mât du drapeau frottait contre le pédalier. Je l'ai remis en place. Nous pouvons repartir. Un nuage de poussière nous recouvre. Une mobylette vient de s'arrêter à notre hauteur. « C'est incroyable ce vélo. D'où êtes-vous parti ?»«
D'Agouna ce matin, de Cotonou il y a 3 jours. »
« Ce que vous faites doit demander beaucoup de volonté et de passion. » «
Une chose est sûre, nous ne le faisons pas par obligation. » Moi, ma seule obligation est de rejoindre le Très-Haut une fois mort. Mais s'il fallait faire ce que vous faites pour rejoindre le bon Dieu, je ne pourrais pas le rejoindre.
Fou rire. Où allez-vous?
Là où la nuit nous conseillera nous arrêter.
J'habite à Savalou, à 20 kilomètres d'ici. Je vous y attends, vous serez mes hôtes.